10 minutes avec.
Radio Grenouille. 10 minutes avec.
La rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Dominique Gozin-Muller, architecte, philosophe. On dit architose philosophe.
En fait, je suis seulement architecte et surtout auteur. Et j'ai été très étonnée quand j'ai découvert sur le programme qu'on m'avait présenté comme philosophe. Ah, voilà. Et quand j'en ai parlé à certains amis, ils m'ont dit « mais ça te va très bien
». Donc on garde philosophe.
On peut garder philosophe et ça m'amuse et ça me fait plaisir.
Vous intervenez dans le cadre des rencontres nationales de l'habitat participatif à Marseille. En tant qu'architecte, est-ce que vous pouvez me parler de la place de l'architecte dans la démarche d'habitat participatif ?
Dans la démarche d'habitat participatif, l'architecte a un rôle à la fois moteur et un rôle aussi souvent d'animateur. Parce que quand un groupe de familles vient le voir avec un projet fort, chacun veut réaliser son rêve. Et l'architecte doit arriver à tempérer, à faire plaisir, à apporter à chacun ce dont il a envie, mais tout en conservant une forme architecturale qui soit intéressante, forte. Et quelquefois, c'est un peu la quadrature du cercle. Et beaucoup d'architectes disent que c'est passionnant, mais qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent avec.
L'habitat participatif, évidemment, s'inscrit dans une démarche de développement durable. Une démarche qui, selon vous, nécessite une approche holistique. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Holistique, ça vient d'un mot grec qui est holos, qui veut dire tout entier. Et en fait, ça veut dire qu'il faut arrêter de voir, comme on le voit souvent en France, les choses d'une manière sectorielle et mettre ensemble l'adaptation au site, la réponse au contexte, à la géographie, au climat. Et on voit bien qu'ici, à Marseille, on ne construit pas comme on construirait à Lille ou dans les Alpes. L'adaptation aussi fine aux besoins des gens, bien sûr, mais en plus, tout ce qui concerne les économies d'énergie et le choix des matériaux. Essayer d'avoir des matériaux que j'appelle éco-locaux, c'est-à-dire des matériaux qui sont non seulement naturels, mais en plus qui sont des ressources locales pour donner des emplois dans la région et pour retrouver aussi cette identité régionale que quelquefois on a perdu quand on utilise les mêmes matériaux aux quatre coins du monde.
Évidemment, ça s'applique à l'habitat participatif. Tout ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le montage d'un projet d'habitat participatif.
Alors, en France, très souvent, l'habitat participatif est en plus un habitat écologique. Mais ce n'est pas vrai partout. Ça dépend des clients de l'habitat participatif et ça dépend aussi de leur implication militante. Dans des villes allemandes, par exemple, comme Tübingen, qui est vraiment la ville pionnière dans le monde, sans doute, sur l'habitat participatif, il y a à peu près 70% des logements qui sont conçus est construit selon ce modèle participatif. Donc vous imaginez bien que tout le monde ne le fait pas super écolo. Et y a des gens qui le font uniquement pour des raisons économiques, c'est-à-dire ils veulent se mettre ensemble pour économiser les 15% qu'on donne normalement à un promoteur. Et à Tübingen, il y a l'association des émigrés de Russie ou l'association des Turcs qui se sont mis ensemble pour construire des bâtiments. Comme souvent, ils travaillent dans le milieu du bâtiment, ils l'ont en partie construit eux-mêmes et pas forcément de manière écologique. Mais c'est vrai qu'en France, très souvent, les gens le font aussi par militantisme écologique, avec des écomatériaux, avec du bois, avec éventuellement de la terre crue, avec de l'isolation en paille ou en laine de bois.
Vous pouvez nous parler un peu plus de Tübingen en Allemagne. C'est donc une ville qui s'est particulièrement focalisée sur l'habitat participatif. Donc il y a plusieurs projets d'habitat participatif dans cette ville importante.
Tübingen est une ville universitaire dans le Bade-Württemberg, donc au sud-ouest de l'Allemagne. Et c'est une ville qui a fait un des premiers écoquartiers qu'on appelle la Südstadt, avec un quartier Loreto, quartier français, sur une ancienne friche militaire. D'ailleurs, c'était les militaires français qui y étaient. Donc après la chute du mur de Berlin, les Français sont repartis. Ils avaient cette grande friche à restructurer et ils ont décidé d'en faire un écoquartier. Une des particularités, c'est que le rez-de-chaussée est toujours occupé par des services, des commerces, et au-dessus il y a des logements, et une grande partie de ces logements ont été faits en habitat participatif, souvent avec différentes générations, avec différentes couches sociales, avec des implications aussi concernant la vie du quartier, par exemple au rez-de-chaussée, une crèche parentale ou un atelier de poterie. Et petit à petit, sur les autres nouveaux quartiers de Tübingen, qui est une ville en expansion, il y a eu toujours plus d'habitats participatifs pour arriver jusqu'à quasiment 80% sur les nouveaux écoquartiers. Et à tel point qu'à Tübingen, les banques préfèrent prêter aux groupes d'habitants, qu'on appelle les Baugruppen là-bas, qu'à des promoteurs, parce qu'ils savent que les projets se feront et en plus de un avenir très, très sûr. Alors bien sûr, il faut toujours une décision politique, un appui politique fort. Et là, c'est vraiment le maire adjoint à l'urbanisme de la ville de Tübingen qui a été le moteur et qui porte le projet. Et maintenant, c'est devenu tout à fait une évidence. Et il y a eu plein de nouveaux métiers autour de ça. Par exemple, il y a des gens qui servent de facilitateurs entre les groupes d'habitants et l'architecte. C'est-à-dire que l'architecte reste dans son rôle de concepteur et il y a quelqu'un qui travaille avec les groupes d'habitants pour faire le programme, pour déterminer les besoins, qui est parfois un petit peu ce qui pose problème quand l'architecte doit avoir les deux casquettes.
Et en fait, donc, ce sont des projets qui sont nés quand à peu près ? Ça date de quand maintenant ? Ça fait combien d'années ?
Alors la chute du mur de Berlin, c'était 89, donc le projet a commencé début des années 90 et il est terminé, celui de la Südstadt est terminé depuis 7-8 ans maintenant et les autres continuent à se faire.
Donc on a un vrai retour d'expérience ?
On a un vrai retour d'expérience avec une très grosse satisfaction des habitants. Ce qui est aussi vraiment très intéressant dans un projet comme ça, c'est que l'espace public et apaisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de voiture, les gens s'y promènent à pied, en vélo, il y a des aires de jeu où vous voyez plein de gamins qui jouent et qui ne jouent pas sur des agrès en plastique standardisés et puis sur un sol en mousse synthétique, mais qui au contraire ont du sable au sol ou des écorces, quelques troncs d'arbres, quelques cailloux, de l'eau toujours avec une pompe à main et cette vie beaucoup plus proche de la nature, y compris en plein centre-ville. Dans le quartier qu'on appelle Mühlenviertel, il y a même au centre du quartier un petit ruisseau qui fait 2-3 mètres de large, très, très naturel encore, avec les berges pleines de végétation. Et c'est tout à côté d'une place minérale et les gamins pataugent dans le ruisseau comme moi je pataugeais dans le ruisseau à la campagne chez ma grand-mère. Donc on a vraiment cette espèce de retour de la nature en ville et d'une nature un peu sauvage. Et on retrouve ces ruisseaux sauvages pratiquement dans tous les quartiers de Tübingen.
Comment on explique d'ailleurs que ce soit en Allemagne que sont nés tous ces projets ?
Le rapport à la nature en Allemagne est très différent. C'est cette nature un petit peu sauvage. C'est pour ça que toutes les aires de jeu ont ce côté eau, rocher, bois. Et aussi, il y a des écoles maternelles qu'on appelle Waldkindergarten, qui sont jardins d'enfants dans la forêt. Il y en a à peu près 500 en Allemagne. Et les gamins, pendant les 3 ans de ce jardin d'enfants, non, il n'y a pas de bâtiment. Il y a juste un petit abri en bois ou une roulotte. Et les gamins sont du matin au soir, même quand il pleut, même quand il neige, dehors avec des bottes et une espèce de salopette en plastique. Et ils tripatouillent dans l'eau, dans la terre, toute la journée. Donc il y a ce rapport très fort, y compris dans les jardins d'enfants normaux, avec la nature. Et là-bas, on n'a pas peur de se salir. Les gamins, ils ont des chaussons. Quand ils rentrent dans l'école, et ben, ils enlèvent leurs bottes, ils mettent des chaussons. Et donc, il y a... et puis ils enfilent leur salopette pour pas être trop sale. Mais il y a vraiment ce rapport très fort à la nature. Et je pense que c'est vraiment une relation à l'environnement extérieur qui est tout à fait différente. Beaucoup plus simple, beaucoup plus directe.
Et vous, en tant qu'architecte, vous avez déjà été impliqué dans des projets d'habitat participatif en France ou en Allemagne ou ailleurs ?
Non, j'ai décidé... il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années après mes études, de mettre ma passion pour l'écriture au service du talent de mes collègues qui font la magnifique architecture. Et en fait, depuis vraiment plusieurs années, je lis plus de livres de sociologie, de psychologie et de philosophie que de livres d'architecture. Parce que je pense qu'on a tous les outils pour faire de l'architecture écologique et pour faire de l'habitat participatif, aujourd'hui en France aussi, et que ce qui manque, c'est le déclic qui fait que les gens en ont envie. Donc c'est un déclic qui est beaucoup plus culturel et j'essaye de comprendre comment y arriver. Comment donner envie aux gens de faire ensemble. Et c'est quelque chose que j'espère faire aussi avec mes étudiants bientôt.
Donc c'est plus sur la théorie que sur la pratique, en fait.
Oui, plus la recherche, mais surtout la communication. C'est-à-dire raconter ces projets participatifs, c'est-à-dire avec une implication sociale et humaniste très forte, qui ne sont pas assez connues, que je voulais raconter pour donner envie à d'autres gens d'en faire.
Notamment dans votre revue dont vous êtes la rédactrice en chef, OCA, écologique.
Exactement, oui.
Merci, Dominique.
Avec grand plaisir.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec...